Esdras, je vous ai dit, il y a deux parties dans le livre d'Esdras. Il y a la partie qui concerne Zorobabel et tous ses amis. Faites bien attention que c'est quand même étonnant. Un livre qui parle d'Esdras n'en parle pas pendant 5 à 6 chapitres. Il faut faire attention. Et ces hommes-là, ces femmes-là qui vont repartir sont 42 000 plus 7 000 serviteurs, comptant à peu près 50 000 personnes qui repartent, avec des mandats pour construire. Et ce n'est pas les Hébreux qui ont demandé à repartir. C'est Dieu qui a commandé les événements et qui a parlé au roi. Donc Esdras, chapitre 1, verset 2, « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. » Voilà. Vous voyez qu'il y a une maison construite sur ordonnance d'un non-croyant, d'un non-juif. Enfin, il est croyant à sa façon, mais quelqu'un qui est iranien, un iranien. C'est extrêmement important de se rendre compte que Dieu intervient. À l'époque de Jésus, le temple qui s'achevait, qui avait commencé en moins 16 avant Jésus et qui a duré à peu près 40 ans, Jésus a vu le temple se finir et puis après il a été exécuté, arrêté, mais c'était Hérode. Hérode, c'est un Iduméen, c'est quelqu'un qui vient du sud de la Jordanie. C'était pas non plus un juif. C'était pas un cadeau pour les juifs, un tel homme. Eh bien, c'est lui qui a ordonné la construction avec l'argent aussi des Romains. C'est assez étonnant. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner que dans les années à venir, il se construise peut-être un temple à Jérusalem avec de l'argent qui ne soit pas d'abord juif. Il ne faudra pas faire l'étonner. La main de Dieu dirige les choses. Ce n'est pas forcément un temple qui durera longtemps, parce que dans ce temple, il y a quelqu'un qui voudra se faire adorer comme étant Dieu, l'Antichrist. Mais il y aura, à côté de la mosquée ou à la place de la mosquée, il y aura un temple. Et il sera construit peut-être aussi avec de l'argent venu d'autres personnes. C'est assez étonnant. Bien que les Juifs aient pas mal d'argent actuellement, ils sont en train d'accumuler des fortunes folles, mais c'est peut-être pas comme ça que Dieu le veut. Donc Dieu a réveillé l'esprit de l'empereur. Au chapitre 1, verset 1, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et puis voilà ce qu'il dit. Il prend une décision et il commande aux Juifs de repartir. Ensuite, il va parler, Dieu va réveiller la conscience des Juifs. Au verset 5, les chefs de famille, Judas, de Benjamin, les prêtres, les lévites, tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc, et au verset 8, Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier. Donc, il faut sortir, il faut s'en aller. Ce n'est pas un conseil, une possibilité, c'est un ordre. Dieu utilise des ordres à certains moments dans la vie des croyants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas bouger. Les croyants ne veulent pas bouger. Alors, il faut faire attention, il y a une conjoncture difficile pour les croyants qui est depuis 150 ans, depuis 70 ans, n'ont plus l'idée de retourner, pensent que c'est normal d'être là, on est mieux à Babylone parce que c'est plus riche, etc. On a fait profession, les enfants vont dans tous les métiers prospères, etc. Et pourquoi on retournerait là-bas où il y a un tas de cailloux, tout est cassé, et puis chaque fois qu'on est là-bas, il y a toujours des ennuis à Jérusalem. Donc là, on est bien tranquille. Eh bien non, Dieu n'a pas voulu ça pour le peuple juif, il faut retourner là-bas. Donc au chapitre 2, verset 2, Zorobabel, Josué, Néhémie, Serajah, Réhilacha, Mardoché, Bilshan, Mitzvah, Bigvai, Reubana, bien des autres vont prendre la tête de ce groupe pour diriger les travaux, prendre leurs responsabilités. Parce que Dieu a réveillé leur esprit. Il faut faire attention que Dieu n'a pas réveillé le cœur. Parce que le cœur n'y était pas, il a réveillé l'esprit. C'est l'esprit qui dirige le cœur. Parce que parfois le cœur est rebelle, parfois le cœur est paresseux, il est contraire. Et donc, chez les chrétiens, c'est la même chose. L'Esprit Saint touche l'esprit. Parce que le cœur peut être contraire. Nous savons que nous avons des choses à faire pour Dieu, à faire ou à mettre en ordre ou à ne plus faire, mais notre cœur s'y refuse, s'assoupit, se conforte dans ce qu'il est, et il faut que l'Esprit Saint, parfois par des circonstances ou d'autres personnes, oblige notre esprit à parler au cœur et à changer de condition de cœur. C'est, je pense, à un moment donné, ce que Dieu fait quand on ne lâche pas certaines situations. Alors, c'est un rappel, tout ça, c'est au chapitre 2, verset 64. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter les serviteurs, les servantes, au nombre de 7 337. Donc, ça fait 50 000 personnes. Chapitre 3. Le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Donc, voilà. Cette fois-ci, le démarrage est fait. On est parti. On n'est plus dans ses pantoufles. On n'est plus dans des situations qu'on rêve, hein, parce que c'était la région la plus prospère. Hein. Dites à tous les chrétiens qui actuellement travaillent au Luxembourg, il y en a un paquet, eh bien, qui doivent quitter là et puis aller vivre autre part. Alors, pratiquement, cette région extrêmement prospère, il faut la quitter, comme Abraham a dû quitter. Et aller dans une situation beaucoup plus difficile. Alors que tout le monde allait dans la région prospère, Abraham a fait le contraire. Eh bien, eux aussi. Dieu est le Dieu des contraires. Le Dieu des contraires, il s'oppose à la chair. Vous savez, dans Galates chapitre 5, que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit ont des pensées contraires, opposées. Galates chapitre 5. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem, ils vont bosser, ils vont travailler, ils vont faire tout ce qu'ils doivent faire pour reconstruire. Et c'est clair que ils vont poser les fondements, hein. Vous voyez, au chapitre 3, verset 10, lorsque les ouvrières posèrent les fondements du temple éternel, on fit assister les prêtres en costume, avec les trompettes, les lévites, etc. Donc, on va rendre grâce à Dieu de ce que le travail est commencé. Alors, au verset 12, on a des gens qui sont contents, qui rendent grâce à Dieu, et puis des autres qui se lamentent. Parce qu'ils disent, oh, c'est rien à côté de ce que c'était au temps de Salomon. C'est pas grand-chose. Et ils voient le verre à moitié vide. Ils sont pas contents. Et d'autres voient le verre à moitié plein. Chapitre 3, verset 12. Plusieurs des prêtres, des lévites, des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Donc, c'est, je dirais, un peuple qui connaît des déchirements au niveau des sentiments, des déchirements au niveau des pensées, et il faut que Dieu intervienne. Parce que l'unité n'est pas possible à cette condition-là. La réussite des travaux n'est pas possible dans ces conditions-là. Il faut que quelque chose se passe pour réunifier. Et alors, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'ils ne sont pas unis, Dieu va permettre que les ennemis interviennent, que les épreuves arrivent. les épreuves arrivent souvent pour nous corriger. Au chapitre 4, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille leur dire « Nous bâtirons avec vous. Comme vous, nous invoquons votre Dieu, nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Donc, tous des gens qui sont venus après 722 avant Jésus, qui ont été déportés, que l'empereur a déportés, qui a amené là de force, et qui ont pris des habitudes un petit peu juives, mais en même temps, leurs anciennes habitudes sont toujours là. Ils ont tout mélangé, ça s'appelle du syncrétisme, et ils se disent, ben, on est chez nous aussi, nous, hein, maintenant. On ne va jamais retourner, donc on est là. Bon, on va faire la maison avec vous. Puis après, on mettra nos statues, hein. On fera nos rites, on adorera le soleil, etc. On mettra la statue de Asherah, Astarté, on adorera. Et puis, bon, ben, on plantera des sycomores sur les collines, et puis nos prêtresses feront de la prostitution sacrée avec ceux qui veulent connaître les joies du ciel, déjà sur terre. Alors, prostitution sacrée. Eh bien, voilà, Zorobabel refuse. Zorobabel répond, dans le verset 3, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Heureusement, parce que je pense que les autres qui pleuraient, qui pleurnichaient, etc., ah ben plus on est nombreux, mieux c'est. Ah tant mieux, merci, vous êtes bien gentils. Eh bien, Zorobabel a dit, pas question. Pas question. C'est seulement le peuple élu qui va travailler. Les amis, posez-vous la question dans tout ce qu'on peut faire dans une église. Êtes-vous élu? Avez-vous reçu Christ en vous et le Saint-Esprit? Ou êtes-vous encore à côté et non pas encore un élu? Ce n'est pas la même chose pour Dieu. Pas du tout. Faire des œuvres aux yeux de Dieu, pour lui plaire, lui dire « je suis ton enfant », ce n'est pas possible pour Dieu. Ça n'a pas pris avec Caïn, ça ne prendra jamais. Ce ne sont pas les œuvres qui nous rendent chrétiens, les bonnes œuvres qui nous rendent chrétiens. C'est le fait d'abord d'avoir accepté le pardon de Dieu, de s'être repenti, d'accepter le pardon de Dieu à Golgotha qui fait de nous un enfant de Dieu. Ensuite, l'enfant de Dieu pratique les œuvres que Dieu a prévues pour lui. C'est différent. Eh bien, Dieu a prévu des œuvres pour Israël. C'est que cet endroit du temple est un lieu saint où le nom de Dieu doit être adoré. Et on va revenir sur ce sujet après. Et donc, il va y avoir plusieurs empereurs, hein, qui vont, bien sûr... Le travail est arrêté. Le travail est arrêté parce qu'il y a une lettre d'accusation au verset 6. Le travail est arrêté et l'empereur qui est là en lieu et place du premier, parce que le premier est mort, je vous ai dit qu'il ne vivait pas longtemps, en général 15, 20 ans, 25 ans, puis quick, ou c'est pas de là que je m'y mets. Hein, il y avait pas mal d'attentats, d'empoisonnements, etc. Donc il y a eu... de la part des Juifs, une grande instabilité politique. Ils n'ont pas pu toujours être soutenus comme ils l'auraient désiré, même Zorobabel. Donc ils ont dû se rapprocher de Dieu. C'est des grandes épreuves. Il y a les ennemis qui tentent des pièges et puis qui veulent se mettre avec eux pour se faire croire, faire passer pour Juifs. Et deuxième chose, il y a l'accusation. Et puis il y a le changement, l'instabilité politique, les changements des dirigeants. Tout ça, ça fait que ces épreuves-là vont obliger ce peuple, les uns qui priaient et qui étaient joyeux parce qu'ils faisaient le plan de Dieu, et les autres qui pleuraient parce que ce n'était pas ça qu'ils voulaient, il y a une purification sur ce peuple qui se fait. Cette purification était nécessaire. Plus on tarde à se mettre en ordre avec le Seigneur, plus les épreuves vont tomber, jusqu'au jour où on plie le genou. C'est comme ça avec Dieu. Le Dieu vivant. faut faire attention. La colère de Dieu existe, les amis. Et l'histoire de la Bible le montre bien. Il ne faut pas toujours mettre Dieu à la sauce. Dieu est amour, amour, amour. Ça ferait que Dieu serait bonasse et manipulable. Et ce n'est pas vrai. Alors, Ataxerxès, au verset 7, chapitre 4, verset 7, Ataxerxès 2, dit Assuérus, roi de Perse, qui a été roi en moins 426 à moins 465, hein, c'est pas loin, c'est pas long, eh bien, il doit intervenir. Il doit intervenir, pourquoi? Parce que c'est la pagaille. On lui dit, on accuse, ben il va arrêter tout. Hein. Il va tout arrêter. Mais, il va faire des recherches. Il va faire des recherches. Verset 15, qu'on fasse des recherches dans les livres des mémoires de tes pères. Tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste, etc. Donc, on va chercher les points négatifs sur la vie d'Israël. Et les recherches vont amener ce roi à avoir encore plus peur et à arrêter les travaux. Quand nous faisons quelque chose, en tant que chrétien, il y a des gens qui ont peur. Ils ne savent pas faire comme les autres. On est bien tranquille comme on est. Il faut toujours qu'ils fassent le contraire de nous. Eh bien, il y en a qui usent de leur influence pour arrêter ça. Il y en a qui usent de leur influence pour arrêter les projets que Dieu a et qui met dans l'esprit de ses enfants. Et ça, c'est une règle dans le monde. Le monde n'aime pas les enfants de Dieu. Et ce qui est encore plus dur, c'est que Jésus a dit de bénir ce monde, de bénir ceux qui nous font du mal, de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui ne ressemblent pas. Il n'a pas dit de dire du mal, de blasphémer, etc. Ok ? Et donc, l'épreuve qui vient sur ce peuple va les amener à une vie spirituelle beaucoup plus grande. Au verset 21, le roi, Ataxerxès II, Assuérus, roi de Perse, dit « Ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse pas avant une autorisation de ma part. » Donc, on fait travailler, on fait tout arrêter. À la fin du verset 23, ils firent cesser les travaux par violence et par force. Dans ce peuple, l'épreuve de la foi est grande. Et il y a heureusement deux hommes qui ont une véritable foi en Dieu et qui prient, qui ont le sens de la prière et du jeûne et qui reçoivent de Dieu des ordres. Et ils vont rien dire au peuple, continuez à travailler. Continuez à travailler. Chapitre 5, Agée et Zacharie, donc deux prophètes, vont prophétiser aux Juifs qui étaient en Juda, Jérusalem. C'est-à-dire, ils vont dire, vous devez continuer. Je ne sais pas d'où vient cette musique stupide. Enfin. Et Zorobabel et tous ses amis se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Donc, ils vont continuer à travailler. Et l'empereur va l'apprendre. À la fin du verset 8, le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. On va envoyer une délégation, un contrôle. On va dire, pourquoi vous continuez à travailler alors que c'est interdit? Alors, ces Juifs vont dire au verset 11, « Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux de la terre. Nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Mais après que nos pères eurent hérité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Ils reconnaissent le péché d'Israël. Ils reconnaissent la colère de Dieu. Les amis, en spiritualité, il faut toujours reconnaître cet or devant Dieu. Et il faut toujours reconnaître que bien des choses nous sont arrivées à cause de la colère de Dieu. Parce que nous avons été trop loin dans notre obstination, dans nos péchés. S'il n'y a pas ça dans notre esprit, dans notre âme, dans notre relation avec Dieu, il nous manque clairement quelque chose d'important. C'est l'autorité de Dieu, la paternité de Dieu sur nous. Ça veut dire que le Dieu que nous prions, que nous adorons, en qui nous croyons, n'est pas le vrai Dieu. Si nous n'avons pas fait l'expérience de notre péché, d'un devoir de se repentir, et le devoir de reconnaître qu'il a été en colère, qu'il exerce sa colère sur nous, c'est que nous ne prions pas le vrai Dieu. Nous en prions un autre, que nous sublimons, que nous inventons dans notre imagination, que nous forgeons parce qu'il nous arrange. Timothée l'avait dit, ils ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, la démangeaison des choses agréables. Timothée l'avait dit dans ses épîtres. Eh bien, c'est un piège qui existe à toute époque dans la vie des croyants. Et le rapport au chapitre 5, verset 16, ce Sheshbazzar est donc venu, il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. C'est un nom araméen pratiqué pour citer Zorobabel. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit, elle n'est pas achevée. Ah, voilà. Elle n'est pas finie, mais ça avance. Il y a eu plusieurs empereurs hein, qui disparaissent autour de rôle, et voilà, au chapitre 6, le roi Darius, moins 423 à moins 404, donc vous voyez, 19 ans, hein, 19 ans de règne, hein. quick. Là-dedans, c'est comme ça. Hein. C'est pas neuf sous le soleil, vous voyez bien que dans ces pays, ça barde souvent. Hein. Eh bien, voilà. Et puis, plus on est haut dans le pouvoir, plus on est l'objet de convoitise et de jalousie. Comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais ce n'était pas leur cas. Le roi Darius, donc c'est Darius Ier, le Perse, donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors de Babylone. Voilà bien dit qu'un homme qui est roi, et pendant une courte durée, 19 ans, lui, va rechercher ce qui s'est dit. Il en trouva à Akhmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. Et on rappelle ce que Cyrus a dit. Cyrus II a dit, c'est au chapitre 1, début du chapitre 1. Sur ce fait, cet empereur va donner l'ordre, verset 7, « Laissez continuer les travaux de cette maison des dieux. » Et il va donner de l'argent de sa poche pour que le culte puisse se faire dans le temple. Il va payer tous les sacrifices, il va donner tout, et il va donner l'ordre à tous les mandataires politiques de la région de contribuer avec les impôts à la construction du temple. Verset 8. « Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard des responsables des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi, provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, donc les impôts, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Tous les impôts à l'occident de l'Euphrate vont servir à construire le temple. Imaginez le paquet de sous. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, etc., béliers, agneaux, froment, sel, vin, huile seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. » Pourquoi est-ce que c'est arrivé, les amis? C'est arrivé simplement parce que ce peuple qui se lamentait, qui se déchirait, il y avait ceux qui étaient pessimistes et les autres optimistes. Se confie en Dieu. Ça ne pouvait pas aller, ça. Et pratiquement, il y a eu des épreuves, une après l'autre. On a des souffrances, qu'il ne restait plus que des gens fervents. Et tous ceux qui devaient lâcher, ont lâché. Le cocotier a été secoué, il ne restait que les bons fruits sur l'arbre. Et pratiquement, Dieu a béni. L'empereur suivant, ce Darius II, 23e empereur, a décidé de tout subsidier, tout, de A à Z. Alors les amis, c'est quand même incroyable depuis Cyrus, le 13e empereur, jusqu'au 23e, imaginez le nombre d'empereurs qui sont passés, le nombre de souffrances, de prières et de jeûnes, et la décantation, tout ce qui doit aller au fond, qui est de la boue, pour que l'eau soit propre au-dessus. La purification du peuple, durant toute cette période, a été nécessaire. Dans la période de l'Église qui s'annonce, dans les années à venir, avant le retour de Jésus, vous devez savoir que ce sera comme ça. La purification du peuple de Dieu est indispensable. Pierre, Paul, tous, et puis aux Hébreux, ont dit que les épreuves commenceraient par la maison de Dieu avant que l'Antichrist venait. Les épreuves venaient pour purifier. Purifier. Et ce n'est pas un déshonneur, c'est un privilège d'être purifié. Quand vous avez un morceau de pierre qui passe dans le feu et que vous retirez l'or, et que vous avez la pierre de l'autre côté, vous avez l'honneur d'avoir de l'or. Avant, vous n'aviez qu'une pierre. Notre foi grandit dans la purification. Il faut y consentir, évidemment. Alors, nous sommes au chapitre 6, verset 14. « Les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée, le prophète de Zacharie. » Les prophètes Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël, d'après l'ordre de Cyrus, Darius, Ataxerxès, roi de Perse. Et puis on voit au verset 17, ils offrirent pour la dédicace de la maison de Dieu des centaines d'holocaustes. Donc ils rendent gloire à Dieu. Et on célèbre bien sûr la Pâque. Verset 21, et les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez la purification ? Éloigner de l'impureté des nations et chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, notre tâche est de nous séparer de tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur. Et de chercher avec ardeur le Dieu de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut faire attention. Je voulais faire ce rappel parce que c'est... Nous négligeons l'autorité de la parole de Dieu. Nous la prenons un petit peu pour quelque chose. Ça me fait du bien, ici et ça. Pas tout à fait comme ça que Dieu voit les choses. Prenons Lévitique. Nous allons voir un peu plus près quelle est la conception importante de Dieu à propos de sa relation avec nous et avec Israël. Chapitre 19, versets 1 à 4, Lévitique, écrit par Moïse, 1430 avant Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. » Moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, vous ne ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Donc, ça veut dire qu'on pouvait offrir des sacrifices sans qu'ils soient agréés par Dieu. Dieu ferme ses yeux, il ferme ses oreilles, il tourne le dos. Parce qu'il y a des sacrifices qui ne lui plaisent pas. C'est clair, il veut d'abord la sainteté. Ça, c'est extrêmement important. Seulement, il y a beaucoup d'autres choses qu'il demande. Mais la sainteté, globalement, c'est le message le plus important. Et tout ce qu'il y a dedans, dans les chapitres qui suivent, et bien sûr, explique ce qui est saint, qui ne l'est pas. Regardons à la fin du chapitre 19, donc verset 18. Verset 18. C'est au milieu, c'est pas la fin. Donc verset 18. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc, pas de haine, pas d'inimitié, pas d'animosité, pas de querelle, pas de vengeance, pas de colère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Par extension, tout le chapitre est très important. Regardons au chapitre 16, verset 33. Chapitre 16, verset 33 de Lévitique. Il y a, bien sûr, on va commencer au verset 31. Chapitre 16, verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Donc, humilier son âme, ça veut dire vous faites mourir votre âme. Humus, humilitas, c'est le mot qui fait pourrir, mourir. Donc, ça veut dire que le repentir est total. L'œuvre de la chair en nous doit mourir ce jour-là. Et c'est une loi perpétuelle, c'est pour toujours. Celui qui appartient au peuple de Dieu doit s'humilier et se repentir continuellement. L'expiation sera faite par le prêtre qui a reçu l'onction, qui était consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Donc il y a une expiation, il y a des sacrifices pour cet animal qui meurt, il meurt à notre place. Mais non, en principe, pour nos péchés, nous devrions mourir. L'expiation doit réveiller la conscience. Le péché mérite la mort. Si Dieu ne veut pas notre mort, c'est qu'il en réserve un sacrifice encore plus grand que le taureau, que l'agneau, que la tourterelle. C'est le sacrifice de son fils. Mais il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Et c'est ça que je voudrais que vous fassiez attention. Le sanctuaire de sainteté, c'est ça qui était la priorité pour Jésus. Et quand il disait, vous en avez fait une maison de voleurs, de brigands, de menteurs. Imaginez à quel point il parlait selon l'esprit de la prophétie qui depuis toujours parlait à Israël. Le sanctuaire de sainteté. Donc, aujourd'hui à Jérusalem, sur le mont du Temple, où il n'y a pas encore le sanctuaire, normalement c'est un lieu de sainteté. Ce n'est pas un lieu de religion. Ce n'est pas un lieu où on dit « je suis meilleur que les autres » et on se tape dessus, on se tue, etc. C'est le sanctuaire de sainteté. Vous voyez qu'on est loin du compte, hein, pauvres hommes qui sont en train de se tromper tous mutuellement, en train de se faire du mal et certainement d'être sous la colère de Dieu tôt ou tard. Au chapitre 10 de Lévitique, versets 8 à 14, chapitre 10, verset 8 à 14, l'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est impur, de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Donc, il ne faut pas avoir vu. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui rentraient dans le lieu de sacrifice, le lieu de sainteté, en ayant bu. Ils ne distinguaient plus rien. Figurez-vous que dans l'Épître aux Corinthiens, on voit que Paul doit se fâcher et doit interdire qu'on fasse des repas fraternels avant le culte. Parce qu'il y a des gens qui sont ivres pendant la réunion de prière. Bizarre, n'est-ce pas? Mais moi, quand j'étais enfant de cœur, je me rappelle que j'ai vu des prêtres ronfler à 3h l'après-midi pendant les vêpres dans le chœur de l'église. Il avait bu du vin, il avait bien mangé. C'était le jour de l'adoration. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Alors, je me dis, dans les églises protestantes et évangéliques, peut-être que ça se cache un peu plus, mais Dieu voit tout. Il faut être prudent. Il ne faut pas se méprendre. Les lois de Dieu restent toujours les mêmes. Verset 12, Moïse dit à Aaron et à Eleazar, Itamar, les deux fils qui restent à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Mangez le sang, le vin, près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. Cet endroit est le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi et tes filles avec toi. Non, le lieu même de Jérusalem où, pour Zorobabel, on reconstruit le temple, où Esdras après va arriver, est un lieu de sainteté et de pureté. Et quand on voit bien le texte avec Zorobabel, ils sont en train de se lamenter sur la hauteur, la grandeur, la largeur du bâtiment. Sur le tape à l'œil, certains sont déçus, d'autres sont contents. C'est quand même un peu fort ça. C'est le tape à l'œil qui les intéresse. Alors que, pour Zorobabel et de très rares croyants parmi eux, c'est la sainteté et la pureté du cœur qui compte. Vous voyez à quel point les confusions sont grandes. Eh bien, c'est quand même important de lire ces textes pour se rendre compte pourquoi Zorobabel et certains nombres de personnes ont compris que les épreuves qui vont venir avec des empereurs, les travaux sont stoppés, et ça va durer. Du 13e au 23e empereur, pour que le temple soit fini. Ce sont des épreuves dues à un manque de réelle foi. Ce sont des épreuves envoyées par Dieu pour purifier son peuple. Chapitre 20 de Lévitique, verset 24. Je vous ai dit, chapitre 20, verset 24, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé des peuples. Le principe de la séparation, les amis, est extrêmement essentiel à la vie du chrétien. Le chrétien qui ne sait pas qu'il est séparé des autres, il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème. Par appel de Dieu, nous sommes séparés des autres. Nous ne pouvons pas nous reposer sur les conseils de gens qui n'ont pas la foi. Nous ne pouvons pas nous reposer sur les conseils de quelqu'un qui ne vit pas dans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous reposer sur quelqu'un qui ne lit pas régulièrement sa Bible et ne prie pas régulièrement le Seigneur et le Fils de Dieu. Si nous le faisons, c'est que nous manifestons une confusion et nous ne sommes pas séparés de ce monde. Et pourtant, nous le croyons. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé des peuples. Vous savez que le mot église vient du verbe ek kaleo en grec. Ek kaleo. Kaleo, ça veut dire appeler. Ek, hors de. Le mot église veut dire ceux qui sont appelés à se séparer des autres. Hors du monde. Ecclesia, c'est l'assemblée des séparés. C'est la même idée. Le mot église, ce sont des personnes qui sont séparées du monde, par appel de Dieu et parce qu'ils y ont répondu. Chacun de nous doit s'analyser pour savoir s'il est réellement séparé ou s'il est encore dans la confusion, les amis. C'est extrêmement important. Nous ne lisons pas Esdras pour le plaisir de faire de l'histoire biblique. Nous lisons Esdras pour aboutir à un changement spirituel profond dans nos vies. Regardons dans le livre des Nombres, chapitre 13. Le livre des Nombres, c'est après Lévitique. Pourquoi est-ce si difficile, les amis? Pourquoi est-ce si difficile que les choses changent en profondeur ici, en Europe? Pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous ne voulons pas être séparés du monde. Nous voulons être bien avec tout le monde et ressembler au monde.
Chapitre 13.
Nombre, chapitre 13, verset 31. Je vais commencer au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Donc Josué et Caleb sont clairement conscients que la terre promise, la terre sainte promise, et habitée de gens complètement hostiles et puissants, organisés, qui ont des épées, qui ont des forges, qui ont des outils en métaux, alors que eux n'ont que leur brebis et un bâton. Et il y en a 10 qui disent qu'il faut mieux retourner en Égypte et ne pas y aller. Il y en a 2, Josué et Caleb, qui disent on doit y aller. Dieu nous a demandé d'y aller, on ira. Donc, pensez bien que cette situation-là était la même. Quand Cyrus a dit, à l'époque de Zorobabel, a dit, vous devez retourner là-bas. 43 000 sont partis et peut-être 3-4 millions sont restés dans l'Empire de Babylone. Ok ? C'est pas la majorité des Juifs qui a répondu. Donc l'histoire de Josué et Caleb se répète. Zorobabel et ceux qui sont partis sont des Josué et Caleb. Et tous les autres n'ont pas voulu être séparés de ce monde. Alors, je prends ça, je fais des parallèles dans l'histoire biblique pour montrer que c'est toujours le même antagonisme entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'est comme Zorobabel, c'est comme Esdras. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Alors, du 13e au 23e empereur, il y a certainement, même dans ceux qui étaient partis avec Zorobabel, des gens qui ont parlé comme ça. Et Zorobabel a certainement pleuré et prié et jeûné. Et ses amis aussi. Et certainement qu'il y en a qui ont quitté pour marier leurs enfants et leurs garçons et leurs filles à ceux qui étaient là, aux Samaritains, aux Arabes, aux Ammonites, aux Moabites, et qui ont abandonné le projet du temple. Certainement, sans problème. Et qui ont adoré des statues, adoré les étoiles, adoré le soleil, qui ont lâché. La situation d'Esdras n'est pas différente de la vraie foi chrétienne en Europe. Nous ne pouvons pas embellir le passé pour nous lamenter sur le présent. Nous devons voir que les choses nous sont adressées de la même façon. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Eh bien, nous avons peut-être l'impression qu'en Europe, on n'arrivera à rien du tout, qu'on n'a rien à faire ici, et que c'est bon, il vaut mieux lâcher les bras, ou faire un peu comme tout le monde, quoi. Le principe de la contradiction fait partie de la vie du chrétien, les amis. Et c'est difficile. C'est très difficile, très, très, très difficile à vivre. Comment vivre vraiment si nous n'avons pas une foi profonde, une union avec Christ solide? Regardons au Deutéronome, chapitre 25, verset 19. Deutéronome, c'est après les nombres. Deutéronome, chapitre 25, verset 19. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que c'est pour qu'on se rende compte que la situation d'Esdras et Néhémie, on ne peut pas en faire un beau roman à l'eau de rose. Une belle histoire de Saint-Nicolas ou de Blanche-Neige. C'est la vie d'aujourd'hui du vrai croyant. Deutéronome chapitre 25, verset 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Donc, on voit quoi? Que Dieu va agir pour délivrer des ennemis, qu'il va agir pour donner du repos, il va agir pour donner le droit exclusif sur cette terre à Israël. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Il ne faut pas faire d'accord avec les ennemis. Regardons au chapitre 26, verset 2. 1 et 2. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille. Tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Donc, le lieu à Jérusalem, où était le temple, est le lieu où Dieu veut que son nom soit adoré et reconnu. Et il faut y apporter toutes les prémices des récoltes, de la richesse. Toutes les prémices. Il faut faire attention à ce que nous faisons, les amis. Il faut faire attention à ce que nous faisons, comment nous nous comportons envers Dieu. Avons-nous réellement le sens d'adoration de Dieu? Est-ce que nous accordons les prémices de nos biens à Dieu? Au verset 9, dans le même chapitre, il nous a conduits dans ce lieu, il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Quand on est dans l'endroit où Dieu nous veut, quand on est dans l'endroit où on a la bonne attitude avec Dieu, Dieu nous donne le lait et le miel, c'est-à-dire, il nous donne la nourriture spirituelle. Dieu nous parle à notre cœur. Nous faisons l'expérience de la nourriture céleste. Nous faisons l'expérience intime d'une vie avec Dieu, profonde et sérieuse. Le lait et le miel représentent cette communion à Dieu. Lorsque nous sommes laissés conduits, et regardez dans Romains chapitre 8, celui qui est conduit par le Saint-Esprit est enfant de Dieu. Il y a en nous quelque chose du lait et du miel lorsque nous nous laissons conduire par le Seigneur. Si nous ne nous laissons pas conduire, que nous faisons le contraire, le fruit en sera l'amertume et la confusion. Et vous savez ce que produit l'amertume et la confusion? Tout doucement, le mal-être, l'écartement de Dieu, puis les excuses, les mensonges. Et généralement, quand l'âme va mal, le corps va mal. Verset 19. 18 et 19. Chapitre 26 toujours. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Vous imaginez, Dieu met la barre haute pour celui qui ose vraiment faire vivre avec son Dieu, vraiment. Il met la barre haute. Il aura une supériorité en gloire, même si ce n'est pas en argent, même si ce n'est pas en place, en belle voiture. Les autres le reconnaissent comme quelque chose de mieux qu'eux, de supérieur à eux. Parce qu'il y a en cet homme-là, en cette femme-là, une gloire qu'ils n'ont pas. Et il y a une magnificence qui transparaît à travers un vrai croyant. Les autres se demandent pourquoi ils sont médiocres à côté. Bien sûr, ça peut provoquer la jalousie, l'animosité, ou alors le désir de se rapprocher, de devenir comme la personne. Le croyant, réellement, le vrai croyant est une provocation pour les autres. Et c'est salutaire. C'est salutaire. Et c'est ça être un peuple saint. C'est ça amener le monde à se poser la question sur Dieu. C'est pas ce que je dis qui compte, c'est ce que je suis. Et c'est pour cela que Dieu veut nous purifier et nous changer complètement. C'est pour que nous soyons saints et séparés. Oui, un peuple, tu seras un peuple qui lui appartiendra. Les amis, l'identité que Dieu veut pour nous, elle est haute, elle est élevée, elle est d'une qualité remarquable. Il ne faut pas se contenter de la bagatelle, se suffire de moitié. Je suis à moitié chrétien, je suis à moitié né de nouveau. Au tout cas, je ne suis pas doux. C'est pas ça que Dieu a dit. Hein. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du malin. Oui. Au chapitre 30 de Deutéronome. Qu'est-ce que M. Jeannot peut être casse-pied, n'est-ce pas? Il devra toujours dire des choses comme ça. Mais non, je suis certain que Dieu veut le meilleur pour nous et qu'il nous aime. Mais il ne nous aime pas en nous disant « reste comme tu es ». T'es bien mon petit pote, t'es un vrai chrétien. Mais non, t'es un tordu. Et trois quarts du temps, tu ne fais pas ma volonté. Ça, il ose le dire, Dieu. Donc, celui qui sert le Seigneur, il est aussi tordu de se corriger tous les jours. Nous sommes appelés à être purifiés tous les jours. Tous, tous. Chapitre 30, versets 5 et 6. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Tu le posséderas, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Pourquoi est-ce qu'il y a ce chapitre qui est important? Parce que vous avez dans le Deutéronome un chapitre énorme, le chapitre 28, sur les bénédictions et malédictions. Tu n'obéis pas à Dieu, tu seras chassé de ton pays, tu perdras tout. Tu es béni, voilà ce que tu auras. Eh bien, évidemment, quand on est avec Zorobabel et puis Esdras, déjà la punition a eu lieu, d'ailleurs Esdras et Néhémie le reconnaissent, et Zorobabel, mais Dieu ramène dans le pays, pourquoi? Alors là c'est important, si Esdras et Zorobabel reviennent dans le territoire, c'est pas uniquement pour avoir un beau temple, hein, et pour faire des fonflons, là, de la musique dans le temple. Regardez bien, c'est pourquoi. C'est parce que Dieu a un plan de circoncision spirituelle. Il te fera du bien, te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Si donc, en nous lisant Esdras, c'est dans ce but. Dieu le ramène là pour ça. Alors, quel est le juif circoncis? Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Nous allons voir quel est le vrai juif circoncis. Romains chapitre 2. Si quelqu'un veut lire avec une bonne voix, parce que c'est enregistré. Chapitre 2, verset 16, jusqu'à la fin du chapitre, Romains. Chapitre 2, verset 16.
C'est ce qui paraîtra au jour où, selon l'Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresse, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Oui, comme c'est. L'apôtre Paul n'est pas un gugus. C'est purement l'esprit de la prophétie de la Bible qui sort par sa bouche, sous sa plume. C'est extrêmement important ce qui vient d'être dit là par Paul. Et regardons, retournons à Deutéronome, chapitre 32. Israël a été choisi par Dieu. Israël a toujours désobéi, mais Israël recherche pour le moment. Je remercierai tous les jours de ma vie d'avoir vu ce que j'ai vu au tombeau d'Étienne. Que 110 000 juifs vont chercher une Bible avec le Nouveau Testament à Beth Gimel, tout près de Beth Shemesh, discrètement, humblement, pour y trouver le Messie, le Fils de Dieu, comme à l'époque de Nicodème. C'est qu'ils doivent souffrir, ils doivent avoir mal, c'est qu'ils ont vraiment besoin du Messie. Donc, nous ne sommes pas loin de la fin de l'accomplissement des prophéties. J'ai rien inventé. Je l'ai vu de mes yeux et on était à quatre pour le voir. Alors, aujourd'hui, il se passe certainement quelque chose qui ne passe ni par la radio et la télévision, mais qui se passe dans les cœurs. La foi dans le Messie est en train de préparer la venue du Messie. Donc, les temps se terminent. Serez-vous avec ceux-là d'Israël qui vont dire, béni soit celui qui vient au nom de l'Adonai, de l'Éternel. Serez-vous avec ceux-là? Alors, purifiez-vous, séparez-vous de ce monde, séparez-vous de tous ceux qui vous conseillent, qui vous influencent, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Laissez-vous diriger par la parole de Dieu. Regardons le chapitre 32. Le chapitre 32 de Deutéronome est un chapitre formidable. Je demanderai à des gens qui ont une bonne voix de le lire. À tour de rôle, il faut, lisons. Vous allez voir, le mot rocher revient souvent dans le chapitre 32. Et jusqu'au verset 47. Qui veut lire? Je commence, et après quelqu'un en brillera. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'air. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Imaginez. La honte à ses enfants, race fausse et perverse. Vous vous rendez compte à quel point la prédication de Moïse, la prédication du Saint-Esprit est puissante pour que ce peuple soit au rendez-vous avec le Messie Jésus. Qui veut continuer? Verset 6.
Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton créateur? N'est-il pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quant au Très-Haut, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé, dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré et il en a pris soin. Il a parlé comme la prunelle de son œil.
Il l'a gardé
comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Un autre.
Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher est le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazan et des boucs, avec la fleur du froment, et qui a bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité la jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré.
L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il le brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses.
C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arriverait. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 ? Et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite ? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors ? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de malheur est proche, et ceux qui les attendent ne tardera pas.
L'Éternel jugera son peuple. Mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur peuple est épuisé. Et qu'il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres. Il dira, où sont les dieux ? Le rocher qui leur servait de refuge, c'est Dieu qui mangeait la graisse de leurs victimes. Oui, qui buvait vin et de leur libation. Qui se lèvent et qui vont secourir. Nous comblerons de leur protection. Sachez que quand c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu, pas de nous. Je fais vivre et je fais mourir. je blesse et je guéris, et personne ne délivrera de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, et je vis éternellement. Oui, j'ai guise l'éclair dans mon épée, et ma main saisit la justice pour me venger de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'en ferai mon flèche de chair. Du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi.
Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Noun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. » Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Voilà, le pays tel qu'il est vu par Dieu, avec le lieu sacré de Jérusalem, tel qu'il est vu par Dieu, avec tout ce message qui est dit là. Pensez bien que Esdras, Néhémie, Zorobabel avaient cela dans le cœur. Que beaucoup d'hommes et de femmes alentour d'eux avaient ce message dans le cœur, à cause des purifications, à cause des épreuves. Mais il y avait aussi des gens avec eux qui se disaient juifs, qui se disaient croyants, et qui n'étaient pas des vrais serviteurs de Dieu. Vous voyez bien que Dieu punit le peuple, mais il protège le serviteur. Ça veut dire quoi? Il y a le peuple de Dieu, et dans le peuple de Dieu, il y a des serviteurs. Nous, aujourd'hui, dans quelque église que nous soyons, nous voyons le peuple avec nos yeux. Nous nous voyons, nous nous rencontrons. Mais qui sont les vrais serviteurs de Dieu dans son peuple? Qui est au service de Dieu dans son peuple? Dieu sait faire la différence. Regardez bien ce texte de Deutéronome 32. Il nous importe de faire la différence. Nous sommes le troupeau de son pâturage, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés, nous avons répondu. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est d'être serviteur de l'Éternel. Pour être serviteur de l'Éternel, il faut avoir tout quitté, tout ce qui était dans notre cœur, tout ce qui est pourri, et laisser Dieu déposer sa sainteté. C'est en cela, les amis, que Dieu purifie l'homme du péché d'Adam et Ève, que Dieu donne la vie éternelle. Ce n'est pas simplement une carte d'identité, c'est une nouvelle identité, une nouvelle nature en nous, par Dieu. Voilà les vrais serviteurs de Dieu. Seigneur, Père éternel, Père chéri, donne-nous de comprendre la mission sacrée d'Israël, et le message sacré qui a été donné par les prophètes, par l'Esprit Saint, l'Esprit des prophètes, et donné par Jésus. Donne-nous de comprendre et de vivre, Seigneur, de ta parole, de ton Saint-Esprit, de ta pensée. Donne-nous d'être serviteurs, serviteurs de l'Éternel, de toi, Seigneur. Toi qui es un feu dévorant, toi qui ne supportes pas le péché en ta présence, et toi qui aimes celui qui se laisse purifier par toi, Seigneur, qui se laisse conduire. Seigneur, tu es un feu purificateur pour nos vies. Mais pour celui qui s'y refuse, tu es un feu dévorant pour l'éternité. Nous te prions, Seigneur, que Jésus soit dans nos vies et nous soyons conduits par l'Esprit Saint de Jésus. Seigneur, nous remercions Zorobabel, Esdras, Néhémie, Moïse. Nous remercions tous les hommes et les femmes qui t'ont obéi et qui ont transmis cette parole dans ta Bible. Ce sont des perles précieuses. Ce sont des vrais cadeaux venus de toi. Merci pour tes serviteurs qui nous ont précédés, et qui nous montre le chemin vers toi. Au nom de Jésus. Amen.